T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Bonjour à tous, nous vous retrouvons en ce mois d'avril pour 4 nouvelles chroniques. Alors, nous allons commencer avec un roman de fantasy young adulte autour du folklore et de l'horreur. Puis Laurence vous présentera un roman feel good de Serena Giuliano. Valentine aura la charge de vous présenter une revue hebdomadaire qui décortique l'actualité. Et Vincent terminera par un livre enquête sur les savants fous. Voilà, voilà. Donc pour commencer, moi je vous présente un roman fantasy dès 15 ans, Season of Fear, qui est le premier roman d'Emily Cooper, paru chez Casterman en 2025. Season of Fear, la saison de la peur. Dans un village en bordure de la forêt de Lexenwald, les femmes doivent tous les ans offrir leur peur au saint effroi lors d'une cérémonie collective. En échange de cette peur, le saint protège le village, car la forêt est maléfique, peuplée de créatures et phénomènes dangereux. Sans lui, le village n'existerait plus depuis longtemps. Il vient d'avoir 18 ans. L'âge auquel, pour la première fois, elle va se rendre dans la caverne du saint et lui offrir sa peur lors d'un rite de passage. Seulement, il a un problème. Contrairement à sa grand-mère, sa mère, sa sœur aînée ou n'importe quelle autre femme du village, elle ne ressent aucune peur. Lorsqu'elle se rend dans la caverne du saint en tentant de donner le change, celui-ci perce son secret et, furieux, lui pose un ultimatum. Elle a un mois pour trouver la peur et la lui offrir, sinon il tuera sa sœur aînée. Déterminé à sauver la vie de celle-ci, il décide de se rendre dans la forêt de Lexenwald en espérant que les monstres qui la peuplent lui permettront d'éprouver sa peur. Commence alors pour elle un long périple au cours duquel elle va rencontrer les créatures de la forêt, en découvrir les mystères et peut-être de quoi vaincre ou satisfaire le saint effroi. Premier roman de Emily Cooper, ce récit entraîne le lecteur au cœur du folklore allemand et de l'horreur. La quête d'Ill a tout d'une quête initiatique au cours de laquelle elle va faire des rencontres inattendues qui lui permettront de découvrir qui elle est, ses qualités, ses défauts, l'amour ou pas. Et si vous êtes prêt à découvrir ces mystères, n'hésitez pas, foncez à la médiathèque Camus ou à la médiathèque Vaillant pour emprunter ce roman qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Je laisse maintenant la parole à Laurence qui va vous présenter un roman de Serena Giuliano.
Merci Lucille. Bonjour à toutes et tous, chères auditrices, auditeurs de Radio B. Comme il n'y a pas de honte à se faire du bien, aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur feel good. C'est le roman Felicita, écrit en 2024 par Serena Giuliano, la plus italienne des auteurs françaises, édité par Robert Laffont.
Mais qui est Serena Giuliano?
Elle a 12 ans quand elle arrive en France et elle ne parle pas un mot de français. Se sentant seule et loin de ses origines, Serena Giuliano se réfugie dans l'écriture. Après avoir travaillé dans le milieu bancaire, elle lance un blog sur Internet qui fait un carton et lui sert de tremplin pour se faire connaître du grand public. C'est comme ça qu'elle écrit son premier roman, Bella Ciao, en 2019 et remporte le prix Babelio. Depuis, elle publie un roman par an et enchaîne les succès.
Felicita est donc son 6e roman.
Et oui, et c'est par un drame que commence l'histoire de ce roman que je vais vous présenter. Nous allons y suivre le parcours de Valentina, organisatrice de mariage, qui a parfois fort à faire avec de futurs mariés intransigeants. Mais depuis quelques mois, Valentina souffre et n'a plus goût à rien. Sa meilleure amie, sa sœur de cœur, Azzurra, est morte dans un accident, laissant un mari dévasté et une petite fille de 1 an, Bianca, la filleule de Valentina. Pour sortir la tête hors de l'eau, Valentina se raccroche à sa filleule comme à une bouée de sauvetage, avec le souhait d'honorer la mémoire de son amie disparue et aussi pour que Bianca apprenne à connaître sa maman malgré son absence.
Ce roman, c'est un peu de baume pour les âmes et les cœurs en peine.
Tout à fait, tout à fait. Felicita est en effet un roman tendre et émouvant qui parle du travail de deuil sans pour autant nous plonger dans une infinie tristesse. Car si le sujet est tragique, l'autrice arrive à apporter beaucoup de légèreté et d'humour à son roman. Elle utilise des mots simples, justes, qui ne forcent pas le trait, et ses personnages nous paraissent toujours proches et attachants. Serena Giuliano aime se laisser guider par ce qu'elle ressent. C'est une auteure très instinctive et l'émotion est souvent le premier moteur de son écriture. Vous l'aurez compris, Felicita, c'est une ode magnifique à l'amitié sincère et lumineuse qui résiste à tous les obstacles, une déclaration d'amour universel à ses amis. Dans chacun de ses textes, l'Italie est pour l'auteur une source d'inspiration permanente. On y retrouve une ambiance italienne très chaleureuse, des références à la gastronomie et à la beauté des paysages. Et chaque titre de roman renvoie d'ailleurs toujours à une chanson italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Felicita est un vieux tube des années 80, chanté par Albano et Romina Power. Voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, rendez-vous à la médiathèque Camus ou à la médiathèque Vaillant, vous y trouverez Felicita. Et si tous les exemplaires sont en prêt, réservez le titre et faites-le venir dans la médiathèque de votre choix. Je vous laisse à présent avec Valentine pour la présentation d'une revue.
Merci beaucoup Laurence. Aujourd'hui, bon, déjà bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio B. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une revue d'actualité, d'information, qui en ce moment, je vous l'accorde, ne donne pas toujours à sourire, mais vous pouvez être surpris. Que vous soyez donc plutôt amateur de presse-papier ou adepte de lecture sur téléphone ou ordinateur, vous serez conquis. Je vous propose de vous parler de l'hebdomadaire Le 1, abordant aussi bien des sujets philosophiques, politiques ou encore sociétaux. Vous pourrez retrouver par exemple un numéro consacré à l'œuvre cinématographique de Spielberg, de ses débuts dans des petits films, à ses chefs-d'œuvre ovationnés à l'écran, ses inspirations, l'univers qu'il a construit et beaucoup d'anecdotes de tournage. Dans un autre numéro sur les oiseaux et la préservation de l'environnement, vous découvrirez de nombreuses espèces, leur milieu de vie, leur alimentation. Et pour l'aspect littéraire et philosophique, vous pourrez développer une réflexion sur les dystopies écrites par George Orwell en lien avec l'actualité récente. Au format hebdomadaire s'ajoutent des numéros XXL avec des posters, des infographies parlantes, aussi bien pour un public adulte qu'un public jeune. De quoi ravir la curiosité des petits et grands lecteurs sur le monde d'aujourd'hui et ses enjeux. Chaque numéro est ponctué d'images d'archives, de photos, de dessins, avec un sens de lecture clair et lisible. Un petit florilège d'informations en vrac pour vous donner envie de l'emprunter. Saviez-vous que le colibri a un cerveau proportionnellement l'un des plus gros du règne animal, ou encore que l'une des premières apparitions d'une forme d'intelligence artificielle à l'usage médical est visible dans Star Trek en 1966. Dernière anecdote, le premier long-métrage de science-fiction tourné par Spielberg en 1964 a été filmé à la caméra Super 8. Si vous avez une préférence pour la consultation de l'actualité sur téléphone, tablette ou ordinateur, les ressources Brief.me et Arrêt sur image sont faites pour vous. Vos médiathèques vous donnent accès à l'actualité, à l'information nationale, internationale, au quotidien, 6 jours sur 7. Pour cela, vous pouvez demander plus d'informations dans vos médiathèques ou réécouter le replay de la chronique de Johan du 25 mars 2026. La revue Le 1 est à retrouver à la médiathèque Camus. Sur ce, je laisse la parole à Vincent pour vous présenter son coup de cœur documentaire.
Merci beaucoup Valentine. Bonjour à toutes et tous. Moi j'ai appris dans une étude de l'IFOP qui date de 2023 que 16% des 18-24 ans pensent que la Terre est plate, 20% que nous ne sommes jamais allés sur la Lune ou encore 19% que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Alors comment expliquer la crédulité d'une partie de la population face à des théories pourtant réfutées par la science ? Le livre de Nicolas Foiry, Les faux savants sous-titré « Plongée au cœur du complotisme scientifique », paru en 2025 aux éditions Globe, tente d'éclairer notre compréhension du complotisme en explorant les tenants et aboutissants d'une forme particulière de déni scientifique, j'ai nommé le virodénialisme. Alors pour faire court, le virodénialisme et ses partisans nient tout bonnement l'existence des virus et des maladies contagieuses. Ce courant complotiste, qui a connu un essor nouveau à partir de la crise sanitaire, tire pourtant son origine d'une controverse du XIXe siècle, ayant opposé deux scientifiques, Louis Pasteur et Antoine Béchamp. Pasteur prétendait que les maladies étaient des réactions à des éléments pathogènes extérieurs au corps, et donc susceptibles d'être transmises, là où Béchamp pensait qu'il s'agissait d'un simple phénomène de détoxification du corps. Les théories de Béchamp, depuis très longtemps discréditées par le consensus scientifique, continuent pourtant d'être soutenues par ces complotistes qui égrènent tout un chapelet d'idées saugrenues, parmi lesquelles, tenez-vous bien, le fait que la varicelle serait une réaction allergique en réponse à des produits d'entretien. Alors tout cela pourrait prêter à rire, mais le problème, c'est que certaines des préconisations de ces médecins improvisés peuvent être extrêmement risquées pour leurs victimes, comme, à titre d'exemple, la prescription d'une alimentation cétogène constituée exclusivement de graisse animale et végétale pour lutter contre des affections telles que le cancer ou le diabète.
Mais Vincent, comment la diffusion et surtout l'adhésion à de telles croyances est encore possible aujourd'hui? Et surtout, quel intérêt à les diffuser?
Bien Valentine, pour répondre à ta question, l'auteur Laurent Foiry, également docteur en génie moléculaire, infiltre une communauté numérique de virodénialistes pour nous faire comprendre son fonctionnement. On découvre entre autres le profil et les méthodes des administrateurs de ces communautés, qui attirent de nouvelles victimes et propagent des pseudo-théories parfois par conviction, mais souvent par pure cupidité. Vente de livres ou de produits dérivés, formation, promotion de thérapies alternatives en tout genre, ces pseudo-scientifiques prospèrent sur la propagation de ces croyances, qui ne fait au final qu'alimenter leur business. Enfin, au-delà de la puissance de frappe de ces escrocs, l'auteur nous permet également de mieux saisir les invariants psychologiques et sociaux à l'œuvre dans la viralité du complotisme. Le climat de défiance institutionnelle qui favorise la remise en cause des versions officielles, la complexification des connaissances qui contribue à l'appropriation de versions simplistes du monde, le manque d'éducation des individus à l'esprit critique ou encore l'absence de régulation du marché de l'information. Bref, voici un livre d'enquête que je vous conseille chaudement. Très fouillé, fluide et éclairant, dont vous pourrez saisir les enjeux même sans connaissance scientifique préalable. À découvrir urgemment à la médiathèque Camus. Eh bien, on vous remercie toutes et tous pour votre écoute et on vous retrouve le mois prochain avec grand plaisir pour de nouveaux coups de cœur des bibliothécaires. À bientôt.
T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le quatrième mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.